Bonjour Sophie.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. En France, l'épidémie de coronavirus s'accélère encore avec 18 décès supplémentaires et 800 nouvelles contaminations recensées en seulement 24 heures. Quelles sont les capacités d'accueil des hôpitaux dans les services de réanimation avec le plan blanc maximal déclenché depuis hier? Précision à suivre avec Sophie Bécherel.
Alors que les médecins généralistes s'inquiètent du manque de masques disponibles pour protéger les soignants, une pétition a été lancée pour réclamer une distribution en urgence.
Donald Trump a décrété l'état d'urgence aux États-Unis hier soir face à la pandémie a annoncé le déblocage de 50 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus sur le sol américain. Précision avec notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
En Chine, les autorités déclarent seulement 5 nouveaux cas à Wuhan, ville d'où l'épidémie était partie.
Reportage à Pékin où l'économie repart alors que l'Union européenne est devenue l'épicentre du coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé.
En France, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, la plupart des musées sont fermés.
Le monde de la culture à l'arrêt quasi total, nous dira Yann Bertrand. Et puis la science au cœur de ses décisions politiques. Il en sera question avec votre invité Hervé dans une quinzaine de minutes.
Oui, ce sera donc Christian de Pertuis qui a signé il y a quelques semaines de cela le tic-tac de l'horloge climatique aux éditions de Beck. Impact de cette crise sur le climat et en quoi cette crise nous révèle des éléments de notre civilisation industrielle. Ce sera donc à partir de 8h15.
Le coronavirus a fait 70 morts et plus de 3600 personnes contaminées en France. Ce sont les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé hier soir. Alors que la contamination s'accélère, le plan blanc maximal a été déclenché hier, ce qui signifie que tous les hôpitaux sont mobilisés. Même si moins de 5% des personnes infectées présentant des formes graves de la maladie sont recensées, mais nécessitent des soins intensifs, voire un séjour en réanimation. Pour faire face, les opérations non urgentes sont reportées dans les hôpitaux. Les équipes de réanimation auront en effet rapidement besoin de renforts, Sophie Bécherel.
Trouver des lits supplémentaires en réanimation, c'est essentiel. Le pic de l'épidémie est devant nous et il faut par ailleurs garder des places pour les AVC, les infarctus, les accidentés de la route. Chaque jour, les hôpitaux font une réunion de crise pour évaluer les besoins. Reste qu'une fois les lits libérés, il faut du personnel pour s'occuper des patients. Stéphane Gaudry est médecin réanimateur intensif à l'hôpital Avicenne à Bobigny. C'est l'un des établissements désignés pour accueillir désormais les malades du coronavirus.
C'est le problème majeur. On arrive donc maintenant à une phase où on est en train de recruter toutes les forces disponibles dans l'hôpital, c'est-à-dire en gros les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, et puis ceux qui éventuellement font d'autres spécialités mais qui ont déjà fait un certain nombre d'années en réanimation.
Un médecin réanimateur peut s'occuper avec l'aide d'un interne de 10 à 15 malades. Pour les infirmières et les aides-soignantes, en revanche, les besoins sont plus importants. Or, depuis des mois, ces professions vivent en tension en raison d'effectifs insuffisants. Il va falloir chercher du renfort ailleurs, prédit le médecin.
Il va falloir très probablement que les gens dans les cliniques privées, dans les hôpitaux qui ne font pas de réanimation, s'arrêtent de faire du programme froid, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas urgentes, et nous envoient leurs forces vives infirmiers, infirmières, capables de faire de la réanimation.
Faute de quoi, face à l'afflux de patients, la France connaîtra la même situation que l'Italie, faire du tri entre malades pour décider qui est prioritaire pour les soins.
En première ligne aussi, les médecins généralistes s'inquiètent face au manque de masques de protection. Une pétition est en ligne depuis hier soir pour réclamer un approvisionnement immédiat. La protection sanitaire des soignants n'est pas suffisamment assurée, déplorent certains généralistes et aussi spécialistes, spécialités particulièrement touchées, les ORL, souligne le médecin Elisabeth Touchon, ORL en région parisienne.
Le gouvernement nous a envoyé une boîte de 50 pour le personnel médical, mais certains n'ont pas pu le recevoir. Moi, j'en ai eu une, mais c'est des masques chirurgicaux et non des P2. Et normalement, dans ma profession, il faudrait des P2 pour me protéger réellement, car je ne peux pas faire la protection double masque, étant donné que je suis amenée à examiner des bouches, des nez et des gorges. Et on se pose énormément de questions, à savoir quand est-ce qu'on va les avoir, si on va les avoir. J'ai reçu quelques patients suspect, effectivement, je crains pour ma santé, car on a l'impression d'être mis en première ligne sans protection. Les patients, quand ils sont suspects, on a beau leur faire une ordonnance comme on nous a dit de faire, ils n'ont pas de masque à la pharmacie, on ne peut pas leur en délivrer parce que personne n'en a. Donc on se demande, est-ce que vraiment on protège le personnel de santé de ville ?
Des propos accueillis au micro de Daniel Messager. Sur le site internet de France Culture, retrouvez un dossier intitulé « Les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus » et un podcast dédié « Radiographie du coronavirus ». Partout dans le monde, les annonces se succèdent pour prendre des mesures exceptionnelles pour tenter d'endiguer la pandémie. Aux États-Unis, hier soir, le président Donald Trump a décrété l'état d'urgence face au coronavirus.
Je déclare aujourd'hui l'urgence nationale, deux mots très sérieux. Cette décision va permettre de débloquer 50 milliards de dollars, beaucoup d'argent, à destination des États, des territoires et des villes qui se battent contre cette maladie. Je demande aussi à chacun des 50 États de mettre en place des centres d'opérations d'urgence immédiatement. Je veux que chaque hôpital de ce pays active un plan d'urgence afin qu'il puisse venir en aide aux Américains partout.
Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant à Washington. Les États-Unis ont recensé officiellement une quarantaine de décès et 2000 cas de contamination. Et malgré ces mesures exceptionnelles annoncées, le système de santé américain n'est pas prêt à faire face à un cas de flambée de l'épidémie.
Les États-Unis sont l'un des pays occidentaux les moins bien équipés en termes de lits d'hôpitaux. 2,8 pour 1000 habitants contre 6 en France. Il y a dans ce pays 925 000 lits disponibles et 46 000 de soins intensifs. Tous les experts disent que c'est insuffisant pour faire face à une pandémie de grande ampleur qui pourrait nécessiter, selon une étude de l'université Johns Hopkins, l'hospitalisation de 9,5 millions de malades. Problème aussi pour les respirateurs artificiels. On en recense 160 000 dans le pays. Il en faudrait 750 000 en cas de pandémie sévère. Manque aussi de kits de détection. Hier soir, Donald Trump a promis que d'ici quelques jours, 5 millions de kits seront disponibles. Mais la semaine passée, la polémique n'a cessé d'enfler avec des exemples d'hôpitaux ou de médecins incapables de repérer le coronavirus chez des patients faute de matériel adéquat. Les projections les plus sévères, enfin, évoquent le fait qu'un citoyen sur trois pourrait contracter le virus. C'est ce que le médecin du Congrès a dit à plusieurs élus à Washington. Dans ce scénario, entre 70 et 150 millions d'Américains pourraient être touchés dans un pays où 87 millions de personnes sont mal ou pas assurées du tout.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. La pandémie a déjà fait 5300 morts et contaminé plus de 141 000 personnes dans le monde, dans 124 pays et territoires touchés selon les chiffres transmis par les autorités. En Amérique latine, l'Uruguay annonce cette nuit la fermeture partielle de ses frontières. À Rio de Janeiro, les écoles sont fermées pour 7 jours et les stades, salles de concert et théâtres fermés également. La Chine, de son côté, voit enfin peut-être le bout du tunnel. Le nombre de nouveaux cas est en forte baisse, selon les chiffres officiels. 5 nouveaux cas seulement ont été déclarés à Wuhan hier, la ville foyer de l'épidémie. Dans le reste du pays, la vie reprend peu à peu et certains ont pu rouvrir leur commerce sous conditions. Reportage à Pékin de Stéphane Pambra.
Une dizaine de personnes fait la queue devant cette boucherie de Pékin. Elle vient à peine de rouvrir, mais interdiction pour elle de servir les clients à l'intérieur. Alors c'est à travers une fenêtre que cet homme vient chercher sa viande.
Il y a aussi une autre boucherie plus près de chez moi, mais je trouve qu'ici c'est meilleur. Et elle vient de rouvrir. Si tu veux juste acheter de la viande, ça va, maintenant c'est possible. Mais on ne trouve pas encore tout ce que l'on aime.
Un peu plus loin, ce restaurant a également rouvert, mais sous condition. Pas plus d'une personne par table et distance de sécurité obligatoire entre chaque client, comme l'explique la responsable.
On prend soin de nos clients, on asperge les tables et les chaises avec de l'alcool à 75%. On fait ça au minimum 3 fois par jour dans tout le restaurant.
60% des petits commerces ont pu rouvrir en Chine et 95% des grandes entreprises, selon les chiffres officiels. Mais pour cela, il faut respecter des conditions d'hygiène et de sécurité draconiennes.
Oui, c'est à moi, pardonnez-moi. Sur le plan économique, Sophie Delpont, figurez-vous que Bruxelles a promis hier son soutien aux États membres de l'Union européenne confrontés aux conséquences de l'épidémie du coronavirus.
Oui, après l'Italie qui a enregistré 250 nouveaux décès en 24 heures pour un total de 1266 morts, l'Autriche, la Bulgarie et la Grèce ont annoncé hier la fermeture des commerces non essentiels. Seuls les supermarchés, pharmacies, dispensaires, cabinets médicaux resteront ouverts. Dans ce contexte, effectivement, l'Union européenne, si à cheval sur les règles communautaires sur le budget, va donc lâcher du lest, Angélique Bouin.
C'est un choc mondial temporaire qu'il faut surmonter. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, invite donc les États membres à dépenser tout ce qui est nécessaire pour sauver leurs entreprises, les emplois, aider les consommateurs sans risque de se faire taper sur les doigts. En clair, on va pouvoir laisser filer les déficits dans certains pays comme l'Italie ou accorder des aides d'État sans risque de sanctions. La Commission propose aussi de puiser 37 milliards d'euros dans les fonds européens d'aide aux régions et propose de donner un coup de main à 100 000 petites et moyennes entreprises dans toute l'Europe. Elle garde garantira leurs prêts auprès des banques pour 8 milliards d'euros. Cela peut sembler peu, mais le budget européen, ce n'est qu'un pour cent de la richesse globale de l'Union. Pour Ursula von der Leyen, c'est donc un bon début.
Les mesures aujourd'hui qui ont été annoncées correspondent à la situation d'aujourd'hui. Ceci est un paquet économique important, mais nous devons reconnaître que la situation évolue très rapidement. Nous sommes prêts à faire plus. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l'économie européenne.
Mais pour toutes ces mesures budgétaires nouvelles, elle a besoin du feu vert des États et du Parlement. Je peux vous assurer que le Parlement le fera dès que possible, a réagi son président David Sassoli. L'Europe n'a pas connu de crise aussi dramatique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrit-il. Pour sauver nos pays, nous devons faire fonctionner l'Europe.
En France, les marches pour le climat et contre les violences policières prévues aujourd'hui, et notamment à Paris, ont été annulées par les organisateurs après l'annonce hier du gouvernement d'abaisser à 100 personnes la taille limite des rassemblements au lieu de 1000 précédemment pour freiner la progression du virus. Le vote pour le premier tour des élections municipales est en revanche maintenu demain. Toutes les décisions sont désormais prises en lien avec un conseil scientifique mis en place cette semaine à la demande de l'Élysée. Anne Fogenberg, la science au secours d'une parole politique qui a de plus en plus de mal à s'imposer dans la nation.
Il ne s'agit pas de se cacher derrière les scientifiques, précise-t-on à l'Élysée, mais de nourrir les décisions publiques des explications des meilleurs experts. Emmanuel Macron réaffirme ainsi son approche cartésienne de la politique inspirée d'un corpus de philosophes, les Lumières, Saint-Simon, même si la filiation fait débat, ou encore Karl Popper. Mais au-delà de la crise sanitaire, le philosophe Pierre Musso voit aussi un bricolage symbolique pour tenter de recrédibiliser la parole politique.
Parce que derrière se joue la crise du politique lui-même. Et donc, comment recoller les morceaux d'une société éclatée? Comment recoller des morceaux de la représentation politique délabrée? Et justement, en faisant appel à un référent au nom duquel on agit, au nom duquel on se réunit, au nom duquel on fonde la décision. Et aujourd'hui, dans les sociétés hyper-industrielles, évidemment, la vérité, si on peut l'appeler comme ça, c'est la science.
D'où l'instauration de ce rituel quotidien avec le professeur Salomon, le directeur général de la Santé, qui est devenu le visage de la communication du gouvernement dans un tandem avec le ministre Olivier Véran. L'Élysée a aussi appris de la catastrophe de Lubrizol et cette gestion de crise permet aussi de ne pas perdre l'opinion publique.
Anne Fogenberg.
On reviendra sur ces questions avec notre invité d'actualité dans les matins du samedi. Dans quelques minutes, notre invité, l'économiste Christian de Pertuis, fondateur de la chaire économie du climat à l'Université Paris Dauphine, Sophie Delpont.
En attendant, le groupe Air France KLM fortement plombé par la crise du coronavirus, la compagnie aérienne néerlandaise a annoncé hier qu'elle allait supprimer jusqu'à 2000 emplois chez KLM pour faire face à l'impact de la pandémie. L'entreprise emploie 33 000 personnes, alors que de son côté, Air France prévoit un large recours au chômage partiel, un dispositif que l'entreprise n'avait jamais activé jusque-là, Anne-Laure Jumet.
Cette crise d'une ampleur inédite a d'ores et déjà un impact sur notre trésorerie. C'est en ces termes qu'Anne Rigail, la patronne d'Air France, justifie le traitement de choc administré à la compagnie. Toutes les catégories de personnel sont potentiellement concernées par ce recours au chômage partiel. Une mesure nécessaire, selon Christelle Auster, secrétaire générale du syndicat national des personnels navigants commerciaux.
Nous avons l'impression qu'avec cette mesure de chômage partiel, Air France serait en capacité d'être épaulée dans cette crise que nous traversons. Les réservations ont chuté en Asie, ont énormément chuté aussi sur l'Amérique Nord. Et je crois que si on est un tout petit peu responsable, on est en mesure de comprendre dans quelles difficultés se trouve notre compagnie aujourd'hui.
Alors ce plan d'activité partielle n'est qu'une brique d'un plan à plus grande échelle, un plan d'adaptation, selon les mots de Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM, qui s'est adressé aux salariés par vidéo interposée.
Sur le plan national, nous avons demandé que soit étudier les possibilités de différer les paiements de taxes et de redevances, ainsi que de certaines cotisations sociales. Cette crise est difficile pour nous tous, mais nous devons garantir notre avenir.
Autre mesure, les salaires des membres du comité exécutif et des cadres supérieurs seront gelés cette année et le versement des primes variables sera décalé à l'automne. Les dépenses, projets et investissements jugés non indispensables seront, eux, reportés ou annulés.
Le printemps de Bourges annulé, le Louvre, la Tour Eiffel fermée, les cinémas amputés après l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe hier de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Cela veut dire que l'immense majorité des théâtres, salles de concert, musées ou cinémas vont être contraints de réduire la voilure, voire tout simplement de fermer leurs portes. Le monde de la culture est à l'arrêt quasi total, Yann Bertrand.
Déjà éprouvé par la limite de 1000 spectateurs imposée dimanche dernier, le monde du spectacle s'est encore rétréci hier avec la nouvelle jauge de 100. Principale annonce, l'annulation du Printemps de Bourges qui ne fêtera pas sa 44e édition le 21 avril prochain. Plus de 80 salles parisiennes de théâtre privé, le Théâtre National de la Danse à Chaillot, l'Opéra de Bordeaux, la Maroquinerie à Paris et tant d'autres salles de concert plus modestes ont annoncé leur fermeture. Le musée du Louvre restera fermé jusqu'à nouvel ordre, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, aussi le MUCEM à Marseille, celui des Confluences à Lyon. Comme beaucoup d'établissements publics, certains limiteront leur jauge et resteront ouverts comme Chambord ou le musée des Beaux-Arts de Lyon. D'autres fermeront comme le château de Versailles, mais pas le parc. Les monuments nationaux, eux, resteront ouverts, mais pas la tour Eiffel, un symbole. Et puis le cinéma, avec la limitation des salles à moins de 100 spectateurs, beaucoup de complexes resteront fermés. D'autres essaieront de limiter la circulation et la fréquentation. Mais ici comme ailleurs, le premier réflexe est tout simple, appeler avant de se déplacer. Pour le reste, c'est l'incertitude la plus totale.
Un mot de météo de la pluie sur le nord, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, plus de soleil partout ailleurs, température comprise entre 5 et 16 degrés.